J'ai envie d'avoir mon nom sur une vitrine. J'ai envie d'avoir mon nom dans les magazines. Je savais que j'allais faire quelque chose. Tous les gens qui sont autour de moi, il n'y en a pas un qui aurait misé un franc sur moi, quoi. Là, j'étais pas bien. Ouais, j'ai peur. Mais va affronter ta peur. J'ai fait mes écoles primaires, collège à Avignon, et puis après le collège, j'ai envie d'être coiffeur. Alors comment c'est venu, je sais pas, je suis tombé dedans, la passion normale, je sais pas, ou la coiffure qui m'a choisi, enfin bref. Dès l'âge de 15 ans, je suis rentré en école de coiffure, dès que j'ai fini le collège en fait. De là, j'ai eu mon CAP, cursus classique, et puis j'ai rencontré des gens par le biais de mon école de coiffure en fait, qui m'ont mis dans des compétition de coiffure en fait, tout simplement pour jeunes quoi. C'est le genre de compétition, c'est un peu comme du patinage artistique, il y a une note technique et une note artistique, donc voilà, c'est de la compétition.
Mais t'as quel âge quand tu gagnes ces concours?
J'avais 16 ans, 17 ans.
T'as des potes comme ça qui avaient un peu des rêves similaires aux tiens mais qui bossaient pas assez pour...
Alors en fait, c'est pas des concours gagnés ou des titres qui vont automatiquement t'ouvrir des portes de ce que tu veux faire ou de tes rêves, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que j'ai pas été le meilleur.
D'accord.
J'ai pas été le champion du monde, j'ai pas été le champion de France. T'avais une, deux ou trois places qui allaient être compliquées à aller chercher, quoi. Donc t'es arrivé quatrième, cinquième, sixième. De temps en temps, t'es arrivé à faire un exploit, à venir troisième, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc c'est pas le meilleur, forcément, qui va arriver au bout de ses rêves. C'est une question de chance, de stratégie, choix de vie, en fait, tout simplement. Tous ces concours se font, évidemment, ça t'ouvre l'appétit. Je m'étais focalisé à l'époque, évidemment, que sur Paris. Quand t'es en France, la capitale, c'est Paris, c'est là où ça se passe. C'était le rêve. Je travaillais dans un centre d'Avignon, j'étais pas bien moralement, je savais pas quoi faire, j'ai envie de bouger, j'ai envie... Et puis, une de mes clientes à moi s'aperçoit que je suis pas comme d'habitude, où j'ai toujours un tempérament toujours joyeux, sympathique. Et là, j'étais pas bien. Des jours où on est un peu down, quoi. Et elle me dit, je sens. Je dis, ouais, j'ai envie de partir à Paris, je sais pas comment faire, je suis jeune. Elle me dit, écoute, moi, chez mes beaux-parents, ils ont un salon de coiffure à Courchevel. Est-ce que tu connais Courchevel? À l'époque, je dis, pas vraiment, une station de ski. Elle me dit, alors écoute, voilà, Courchevel, c'est une station de ski, mais prince, princesse, saoudien.
Célébrité.
Célébrité. Et tous les clients internationaux que tu peux avoir à Paris, tu les as à Courchevel, de toute façon.
Voire limite plus, d'ailleurs.
Voire limite plus, bien sûr. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai pas de concurrence. À Paris, on est des milliers de coiffeurs à vouloir avoir ces clients-là. Quand tu es à Courchevel, ça reste un village. Tu as deux, trois salons. Donc tout le monde mange à sa faim, si j'ai envie de dire, quoi. Donc moi, je connais pas trop Courchevel, je dis, allez, pourquoi pas une première expérience, c'est logé, pourquoi pas. C'était pas très bien payé, mais allez, c'était pas l'argent qui comptait, quoi.
Tu peux en parler de ça, parce que je pense que c'est super important. Je vois des gens qui font l'erreur dans leur début de carrière de vouloir absolument gagner beaucoup d'argent tout de suite et qui, du coup, ont pas assez d'expérience ou se créent pas le réseau. Pourquoi tu le fais, toi, en fait, à ce moment-là?
Alors, à moins de gagner au loto, pour gagner de l'argent, il faut investir. Au début de ta carrière, la seule chose que tu as à investir, c'est du temps. Tu n'as pas d'argent. Donc, ton investissement, c'est du temps. C'est de l'apprentissage. Ma cliente me dit, écoute, je te fais avoir un entretien d'embauche avec mes beaux-parents. Très bien. Donc, je monte les voir. C'était à l'époque sur Lyon. Ça se passe bien. OK, 1er décembre, tu démarres la saison à Courchevel pour l'hiver jusqu'au 30 avril. Donc, j'arrive, appartement, colocation avec les collègues de boulot. Donc, ce que j'appelle mes années love story. Moi, je suis arrivé, j'ai pas dormi pendant 5 mois.
C'est la fête tout le temps.
C'est la fête tout le temps. Et en fait, je me suis aperçu qu'en faisant la fête, je ramenais grave de clients. J'avais pris des contacts la nuit. Mais pour prendre des contacts la nuit et faire votre clientèle la nuit, je touche pas à l'alcool et d'autres choses. Là, c'est un secret que je dis là. Hein. Ce que je viens de dire là, ça vaut de l'or, hein. Surtout au milieu de la coiffure. Hein. Sobriété oblige.
T'avais ton cerveau qui marchait, quoi.
Je suis en mode travail du matin au soir.
Même en boîte de nuit, du coup?
Surtout en boîte de nuit. Je commence à connaître du monde, à me faire un réseau énorme. Je me souviens qu'à l'époque, je coiffe Jasmine Al-Fayed, qui était la fille de Mohamed Al-Fayed. Et donc ça a commencé à créer du network, en fait. Ça a été un peu des gens, alors pas des célébrités, des stars du milieu du showbiz, mais
Ou des gens du réseau.
Des gens du réseau et du milieu un petit peu
haut de gamme,
mondain, haut de gamme, voilà. À l'arrivée, je vends du brushing et de la coupe, comme des millions de coiffeurs. Donc, il faut une valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée que je connais, c'est moi. Donc, c'est à moi de faire la différence. Donc, après, c'est une question de caractère. Ce qui fait que les gens vont avoir envie de venir avec toi. J'ai quelques règles dans ma vie qui font que j'ai quand même une approche avec mes clients du fait de mon caractère, mais aussi du fait de mes valeurs qui fait que je suis un peu différent. Donc, il faut créer cette différence-là.
J'essaye de me remettre dans le contexte. Tu as 19 ans, tu es en boîte de nuit et là, imaginons, tu vois une personnalité. Ouais. Quand tu la vois, tu te dis quoi à l'intérieur?
Ouais, super, c'est cool.
C'est cool.
C'est cool.
Mais t'as pas de stress qui...
Non, j'ai pas de stress spécifique ou quoi que ce soit. Quand j'avais Naomi Campbell sur mon fauteuil, pour la première fois que je l'ai eu, j'ai pas de stress particulier à avoir. J'essaie de les faire sentir à l'aise, quoi. Tous mes copains et copines de Courchevel, je m'aperçois qu'ils sont connectés à Saint-Tropez. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je monte faire un hiver à Courchevel et de là, je partirai à Paris. Finalement, j'ai jamais été à Paris de ma vie. Peut-être l'avenir me dira peut-être qu'un jour, mais donc du coup, je trouve un boulot à l'hôtel Biblos, l'hôtel légendaire du centre-ville de Saint-Tropez, et qui a aussi un autre salon, un deuxième salon sur une plage. Je faisais 3 jours à l'hôtel et 3 jours sur une plage privée. Je commence à rencontrer des gens. Et là, très vite, on me dit, en dehors du salon, viens travailler sur mon bateau, viens travailler dans ma villa. Quand je suis avec ces gens-là, sur leur bateau ou quoi que ce soit, je ne fais pas l'impressionner. Et puis, j'essaye pas de devenir leur meilleur ami et de devenir un amuseur de la galerie, quoi. Voilà. Ça, c'est très important.
C'est ce qui tue ton réseau, j'imagine, si tu commences à trop...
Ah, c'est ce qui tue ton réseau. Je suis pas du même monde que ces gens-là. On fait pas partie du même monde. Et c'est très bien comme ça. Et je suis très bien comme ça, quoi. Après, alors oui, alors, je dis pas, il y a des clients qui sont devenus des très, très bons amis à moi. Aujourd'hui, on se permet des blagues, on s'appelle à n'importe quel moment. Si j'ai un souci, je les appelle, ils ont un souci, ils veulent un renseignement, ils m'appellent. Parce que là, au bout de 15 ans, maintenant, presque 20 ans, à graviter dans ce milieu-là, oui. Donc, j'ai une relation. Mais ça reste toujours pro, quand même. À la fin du premier été, dans mes clientes, notamment Jasmine Alfayed, elle m'a dit « Claude, j'ai besoin de mes mèches. Est-ce que tu peux venir au Ritz à Paris me faire les mèches ?» Je commence à me dire « Tiens, cette clientèle-là, elle est prête à tout en fait. » J'ai commencé à rencontrer des hommes d'affaires, parler avec mes clients qui sont des hommes d'affaires.
Ils t'ont façonné ton cerveau.
Et à ce moment-là, je me dis, bah, moi aussi, quoi, ça y est, quoi, je veux faire de l'argent maintenant.
Ça illustre bien à quel point qui tu côtoies
oui.
détermine tes pensées et
bien
ta
sûr.
Vie.
Vraiment, après, pour être terre à terre et être d'un pragmatisme froid et cinglant, comme on dit, parfois c'est dis-moi combien tu as, je te dis qui tu es. Quoi. Dans certains milieux, pas tous, mais c'est la réussite qui.
On te mesure à ta réussite.
Ouais, on te mesure à ta réussite. J'aurais pu rester freelance toute ma vie, mais j'avais envie de m'établir. J'ai envie d'avoir mon nom sur une vitrine. J'ai envie d'avoir mon nom dans les magazines. J'ai ouvert un salon. Et puis deux, et puis trois. Et puis là, j'ai eu les stars qui sont arrivées. Naomi Campbell, des membres du groupe U2 quand ils étaient à Saint-Tropez. Des actrices américaines, genre Tara Reid, Karl Lagerfeld, Jean Rock, Ophélie Winter. Plein. Patrick Bruel venait dans mon salon à Saint-Tropez, à Courchevel aussi, avec ses enfants. Catherine Zeta-Jones, son mari, Michael Douglas, tous ces gens-là quoi, que j'ai eu. Quoi. Je savais que j'allais faire quelque chose. J'avais ce truc, j'avais cette envie, quoi. Des petits, de faire quelque chose. Si aujourd'hui, tu vas faire une émission et tu parles à tous les gens qui sont autour de moi, mes profs que j'avais à l'école, en cours élémentaire, ou les copains et tout que j'avais à l'époque, il n'y en a pas un qui aurait misé un franc sur moi. Quoi. Donc si tu veux, mes premières années d'école ont été très compliquées pour moi. Donc j'ai pris du retard. Donc après...
Et donc du coup, ouais. Par conséquent...
Donc par conséquent, j'ai redoublé.
Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi.
Ouais, et puis j'étais... Ouais, le gamin, il a un CE2, il a 2 ans de retard. Il a redoublé 2 fois, je suis en CE2, frère.
Et tu te disais quoi que tu ressentais quoi?
Bah, beaucoup de peine. Couplé à ça, mon père perd son boulot, il a 45 ans à l'époque. Aujourd'hui, quand tu es au chômage, les gens ils s'en foutent, quoi. Mais mon père, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie, depuis l'âge de 13 ans, supporter sa famille, tu vois, ramener le salaire et donner le salaire à sa mère pour élever tous les frères et sœurs qu'il avait. Donc moi, je vois mon père pas bien à cette époque-là. J'absorbe tout. Il devient un peu, lui, comme moi je le suis en termes d'école, il devient lui la même chose.
Le loser de la famille. Hein.
Ouais, alors qu'il n'est pas du tout. Bien au contraire. J'en trouve extrêmement parce qu'il y a une différence qui va se faire entre moi et mes cousins, par mes grands-parents, par ma grand-mère à l'époque.
C'est la famille, ouais. Famille loser quoi, dans la tête de ta mère.
Ouais. C'est ce qui a été aujourd'hui ma bénédiction dans ma vie. Quoi.
C'est génial que tu le vois comme ça et que tu en parles
ouais.
un peu.
Ouais.
Au final, ça t'a créé un feu de...
Ah bah ça m'a créé une rage. Je me compare à mon héros favori, c'est-à-dire Rocky. Quoi. Je ne fais pas le fan devant les stars quand ils viennent s'asseoir. Mais alors si Stallone vient là, j'aurais du mal à me contrôler. Je pense que je le préviendrais déjà, il serait prévenu. Parce que là, je pense que j'aurais du mal à me contrôler. Voilà, c'est le seul. Je connais tous les films par cœur, tu peux me sortir n'importe quelle parole.
C'est quoi ta scène favorite pour avoir le feu intérieur là ?
Dans Rocky 2, quand sa femme sort du coma, il lui apporte leur enfant. Et qu'elle lui dit vas-y fonce. Elle voulait pas qu'il se batte avec Apollo et qu'à ce moment-là elle dit vas-y fonce, gagne.
Tu ressens quoi là quand tu vois
ça ? Ah bah là c'est un coup de feu là, j'ai l'impression d'être dans un canon et c'est moi la catapulte quoi, c'est moi le boulet quoi.
Cette scène-là tu penses que ça t'a aidé à réaliser
ouais. Ouais bien sûr. C'est bien d'avoir des héros. Tu vois, faut s'identifier à ces héros parfois. Moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis la scène dans Rocky 3 quand sa femme lui fait la morale, il perd son premier fight contre Clubberland. Quand son coach lui dit que ses premiers combats avaient été un peu arrangés pour près, donc il sait plus où il en est, et elle lui dit bah, va te battre contre lui une bonne fois pour toutes, cette fois-ci sans excuse, et tu verras. Let's go. Ouais, j'ai peur, mais va affronter ta peur. Moi, quand je suis venu à Vegas, ouais, j'avais peur. J'avais deux salons en France. J'ai tout arrêté. J'avais ma fille aînée qui avait 2 ans et demi. On a lâché les familles, les parents, les grands-parents, et on est venu quoi. Ça faisait 15 ans que j'étais sur Saint-Tropez-Courchevel, que j'avais gravi échelon par échelon et que j'étais un peu le... Voilà, tranquille. J'attendais ma retraite, j'avais mon petit succès tranquille.
Ça aurait pu rester comme ça.
Ouais, ouais. Et là, j'ai envie de me mettre un challenge, j'ai envie de voir, ok, qu'est-ce que je vaux vraiment en dehors de ma zone de confort. Si ça s'était mal passé, tant pis. Mais au moins, ça aurait été, comme dans Rocky 3, le mérite d'être vrai et de savoir où est-ce que j'en étais, quoi.
J'ai vu des gants de boxe dans ta voiture d'ailleurs.
Ah, parce que je boxe, je fais 2 entraînements par jour.
C'est pour boxer Stallone quand il va arriver dans ton salon ?
Ouais, non, mais je rêve de faire un fight. Donc j'ai un coach préparateur physique que je vois tous les matins et mon coach de boxe que je vois tous les après-midi.
Ça t'aide aussi.
Ça m'aide aussi mentalement. Ça me permet de sortir aussi du boulot, du stress du boulot et d'avoir un autre centre d'intérêt à côté. Donc ce qui me permet de totalement sortir du boulot, aller sur quelque chose d'autre pour mieux revenir après quand... sur le boulot, quoi.
J'ai envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble, cette année, c'est notre année. C'est parti.